franceinter.fr.
Bonjour Patricia, bonjour Pierre,
bonjour,
et bonjour à tous. Il est rare que des décisions de justice suscitent à ce point le débat. Mais là, il est question de la mort, et donc il est question de la vie. Quand peut-on dire d'une personne qu'elle est à la fin de sa vie? Et qui peut décider pour elle, quand elle-même n'est plus en état de décider, que le moment est venu de l'aider à mourir? Question grave, essentielle, qui amène chacun inévitablement à se projeter en pareille situation. Et puis, dans l'affaire judiciaire née du drame de Vincent Lambert, car c'est bien de lui qu'il s'agit, on se trouve de plus en présence de deux amours qui se déchirent. L'amour d'une femme pour son mari et celui d'une mère pour son fils. La première affirme qu'il lui avait dit ne pas vouloir vivre cette vie-là et qu'enfin désormais sa volonté sera faite. La seconde, à l'inverse, estime qu'il faut qu'il vive, quand bien même il ne s'agit plus que d'une vie végétative. Et là encore, ces deux douleurs, celle de la femme, celle de la mère, ne peuvent que renvoyer chacun à ses propres tourments, comme en témoignent ce matin les éditoriaux dans la presse, des éditoriaux qui balancent entre éthique et respect du droit. Hier, la Cour européenne des droits de l'homme a donc validé l'arrêt des soins de Vincent Lambert, mais c'est une décision de justice qui ne règle rien, note ainsi le Télégramme, tandis que l'Union précise que Viviane Lambert, sa mère, poursuit malgré tout le combat. En somme, la bataille judiciaire et familiale n'est pas finie, et la vie de Vincent Lambert reste encore en suspens, titre à sa une le Figaro. Le malheureux est devenu un symbole, et à travers sa vie, nous nous interrogeons, qu'est-ce qu'une vie? Analyse Étienne de Montetit, en évoquant une société qui assiste, interdite, au balai des médecins, au désarroi d'une épouse, au chagrin de sa mère. L'amour maternel a ses raisons que la raison juridique ne connaît point. Et chacun de nous se partage entre deux sentiments désormais. D'un côté, le souhait d'un sage encadrement des décisions du corps médical, et de l'autre, l'effarement de voir graver dans le marbre des mesures visant à régler des situations où la frontière entre la vie et la mort est très mal établie. Même perplexité pour Dominique Grenet sur le site de La Croix, pour qui le cas de Vincent Lambert est finalement symptomatique de l'état d'incertitude, voire de déchirement dans lequel sont aujourd'hui plongées les institutions de la famille, de la médecine et du droit, jusqu'où l'éthique, jusqu'où le droit. Dans les dernières nouvelles d'Alsace, Pascal Coqui se fait sévère avec les parents qui, dit-il, ont fait de leur drame un étendard des mouvements extrémistes pro-vie et qui sont décidés à user de toutes les formes de recours possibles pour faire aboutir leur cause. Dans Sud-Ouest, Yves Arté refuse, lui, de trancher le dilemme familial. Ne pas prolonger la souffrance d'un être aimé ne veut pas dire souhaiter sa mort. Alors que faire, interroge-t-il? Dire adieu ou bien refuser encore ce départ? Qui saurait sans trembler trancher en son âme et conscience? Seulement voilà, poursuit-il, Vincent Lambert est toujours là. Un temps pour lui s'écoule qui ressemble à l'infini. Un temps qui nous paraît à nous, de ce côté de la vie, le plus grand des scandales. Scandale, vous avez dit scandale. Sans doute est-ce aussi le terme adéquat pour qualifier l'affaire dont se font à la fois l'écho, Mediapart et M, le magazine du Monde. L'enquête est signée Yann Philippin sur Mediapart. Dans M, c'est le duo Fabrice Lhomme et Gérard Davé. Et l'affaire, c'est le Casagate.
Une affaire qui pourrait être une affaire d'État.
C'est en tout cas l'avis que défendent les journalistes, qui nous explique que des hommes appartenant à l'entourage de Nicolas Sarkozy, du temps où il était président de la République, sont soupçonnés de versements douteux, des commissions occultes en marge de la vente de 45 hélicoptères au Kazakhstan. Au centre de l'histoire, le milliardaire Patok Chadiev, ami du dictateur kazakh Nazarbayev, il était empêtré dans une série d'ennuis judiciaires en Belgique, mais une cellule de l'Élysée se serait chargé de faire pression sur nos voisins belges afin de le sortir du pétrin. Satisfaire donc Nazarbayev et en contrepartie, sérieuse contrepartie, signature de juteux contrats de matériel militaire, notamment les hélicoptères, et puis de grosses mallettes de billets de 500 euros, des sommes en liquide, dont aurait notamment bénéficié l'ancien préfet Jean-François Étienne de Rosay et le sénateur UDI Emery de Montesquieu. Mais Claude Guéant se trouve lui également dans le viseur des enquêteurs. En septembre dernier, ceux-ci ont demandé à inspecter les deux ordinateurs qu'utilisait son assistante au ministère de l'Intérieur. Pas de chance, les disques durs avaient comme par hasard été totalement effacés. Comme l'écrit Marie-Pierre Lannelong dans l'édito de M, on est ici entre la farce et le polar politique. Mais hélas, il ne s'agit pas d'un roman, Hélas, c'est d'ailleurs ce que pense aussi l'avocate niçoise qu'ont diligenté ses proches de Nicolas Sarkozy pour mener les négociations avec la justice belge. Elle pensait, raconte-t-elle, travailler pour la France. Elle se retrouve aujourd'hui mise en examen pour blanchiment et complicité de corruption active désormais. Elle dit craindre pour sa vie parce qu'elle a raconté cette histoire en détail au juge. Elle a reçu des menaces et son fils s'est fait agresser. Elle a même découvert un fil coupé sur sa voiture. Affaire d'argent, affaire d'État, peut-être. Et ce n'est donc pas un roman. Au congrès du PS, à Poitiers, là, il n'est pas certain que les journalistes aient la matière pour écrire des romans. Le congrès a donc débuté hier, mais comme le dit Libération, les enjeux idéologiques du rendez-vous sont quasi nuls.
Oui, d'où ce titre du quotidien, un congrès qui compte pour du leurre.
Et un programme qui ne permettra pas franchement les grandes discussions, ainsi que s'en désole l'un des dirigeants du parti dans Libération, avec une ouverture. En fin de matinée ce samedi, le discours du Premier ministre à midi, une heure sur l'outre-mer en fin de journée, le temps utile de ce congrès, c'est à peine 5 heures. On prétend ouvrir les débats, mais en réalité, tout est fermé. Du reste, raconte François-Xavier Bourmeau dans les colonnes du Figaro, la première impression en pénétrant hier dans la grande salle plénière, c'était une impression de grand vide, une salle à moitié déserte, une ambiance de molle indolence. Les partis n'ont plus la cote. C'est d'ailleurs le dossier de Libération. Les partis, c'est fini. La question porte en elle-même sa réponse, mais il est néanmoins toujours des militants qui continuent de militer, y compris au Parti Socialiste. Durant 6 mois, le journal a suivi les militants de 2 sections du PS. La seule chose qui nous motive, explique la secrétaire de la section des Andelys, c'est de ne pas laisser le terrain aux autres. Et quand elle dit « les autres », elle pense à l'extrême droite. Ne pas laisser la place aux autres, c'est aussi le point de vue que partagent vraisemblablement François Hollande et Nicolas Sarkozy. Objectif 2017, c'est à lire dans Le Monde,
2007,
dans l'esprit des deux hommes, le match retour aura bien lieu, à moins qu'un troisième homme ne tire son épingle du jeu. Sondage Odoxa, publié dans Le Parisien ce matin, la majorité des sondés disent préférer François Bayrou à François Hollande et à Nicolas Sarkozy. Mais bien sûr, un sondage ne fait pas une élection. Autre info dans le même journal, les suites de l'affaire de la Croix-Rouge. L'inspection du travail avait infligé à l'association un redressement potentiel de 11 millions d'euros. Pour des durées de travail abusives, nous en parlions ici même la semaine dernière, le directeur de la Croix-Rouge, Stéphane Mention, vient d'être remercié.
Quoi d'autre à retenir dans la presse ce matin ?
Les peintres classiques n'attirent pas le public, en tout cas beaucoup moins que les impressionnistes, les artistes modernes ou les contemporains, les Monet, les Hopper et autres Jeff Koons. Velázquez broie du noir, nous explique Olivier Sénat dans les pages de Télérama. Velázquez, qui est à l'honneur en ce moment au Grand Palais, lequel misait sur 4000 entrées payantes par jour, finalement c'est 15% de moins. Et au Louvre, il n'est pas impossible que ce soit pire. Combien de visiteurs pour la grande exposition Poussin et Dieu ? Impossible à savoir, il y a si peu de monde que le musée ne communique aucun chiffre. Pour apprendre à pratiquer des examens vaginaux et rectaux, de futurs médecins s'exercent parfois sur des patients endormis et sans leur consentement. Je pense que nous reparlerons de cette information, c'est à lire dans Libération. À la rubrique People, photo de Charlotte Casiraghi et de son mari Gad Elmaleh en une de Monaco Matin. Hier, lors d'un concours équestre à Ramatuelle, ils ont fait taire d'un baiser la rumeur d'une séparation. Charlotte et Gad, toujours ensemble, titre le quotidien de la principauté. Nous voilà rassurés. Enfin, dans la série, les anglo-saxons ont un drôle d'humour. Les sites des journaux reviennent ce matin sur l'étonnante vente aux enchères qui aura lieu fin juin à Los Angeles. La vente de parts de gâteaux de 5 mariages royaux britanniques, certaines datant de plus de 40 ans. Elles ont été récupérées, ces parts, par un ancien chauffeur de la reine Elisabeth II, qui les a conservées dans leur emballage d'origine, frappé du monogramme royal. La plus récente, c'est une part du gâteau aux fruits infusés au brandy servi lors du mariage de Kate et William. Cette part est estimée à plus de 600 dollars. Mise en vente également, une part du gâteau servi lors du mariage de Charles et Diana, gâteau confectionné en 1981. Celle-ci, cette part, est évaluée entre 1000 et 2000 dollars. La maison d'enchères précise toutefois que ces pâtisseries ne sont plus comestibles.
Oui,
le contraire
eût
été surprenant.
On disait pour Pierre Veille, parce qu'il aurait été fichu de les manger.
Dès lors, on se demande qui cette vente peut bien intéresser, excepté peut-être Les amateurs de pudding.
C'est pas gentil, c'est très bon le pudding.
Ouais, enfin, le pudding avec des gâteaux qui ont 40 ans d'âge, oui, donc, d'accord. Je ne garantis pas les faits.
C'était la revue de presse de Frédéric Pommier.